Bonjour à toutes et à tous. Soyez le bienvenu dans notre centre paroissial œcuménique pour le troisième culte de l'été. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Prions. Seigneur, voici le jour que tu as fait, jour de joie pour ton Église. Donne-nous aujourd'hui ton Esprit Saint qui se saisisse de chacun de nous et fasse toute chose nouvelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu très bon, nous te devons tout et nous avons besoin de toi. Nous te bénissons de nous rassembler pour nous donner du repos, pour nous réconforter par ta présence et pour nous nourrir de ta parole. Béni sois-tu, Père, Fils et Saint-Esprit, aujourd'hui et toujours. Et nous allons chanter au 21-14, les mains ouvertes devant toi.
Bonjour à tous, nous avons prévu un service d'accueil pour les enfants qui sera assuré par Daniel Dunant. Est-ce que c'est maintenant que les enfants peuvent te suivre, Daniel? Voilà. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Amen.
Seigneur Jésus, quand nous oublions que tu es tendresse de Dieu pour le monde, prends pitié de nous. Ô Christ, quand ta présence n'est plus pour nous cette parole vivante qui anime nos cœurs, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nos inquiétudes et nos babillages nous rendent sourds à ta voix et nous ôtent le courage de parler en ton nom, prends pitié de nous. Seigneur, quand nos multiples occupations nous font oublier ta présence et les souffrances de notre prochain, prends pitié de nous. Nous continuons avec le chant 4309, Torrent d'amour et de grâce. Sur ma feuille, c'est marqué prière d'illumination. Non ? Comment ? Annonce du pardon. Excusez-moi. J'ai pas l'habitude vraiment. Hein. C'est tout nouveau pour moi. Levez-vous. Ouvrez vos cœurs. Le Seigneur nous dit. Je vous aime depuis toujours. Vous n'étiez pas né, et déjà je vous ai aimé. Je suis vivant et vous vivez. Je suis le Sauveur et vous êtes sauvés. Pour toujours, vous êtes à moi. Nous continuons avec un chant. Règne en moi, que vous trouvez sur la feuillette. À part.
Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, que nous soyons prêts à la recevoir, que cette parole puisse nous encourager, nous faire grandir, nous interpeller, nous relever selon les besoins de chacun. Oui, que ta parole nous pénètre ce matin. Amen.
Je lirai dans Ésaïe, chapitre 61, les versets 1 à 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Une seconde lecture biblique dans Jean chapitre 8, les versets 31 à 36. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu ? Vous deviendrez libres ?» en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
Bonjour, voilà, j'espère que vous allez bien en ce mois de juillet, de vacances pour un certain nombre, pas pour tous. C'est un plaisir de collaborer entre nos deux communautés pour ces 8 cultes de l'été. Et puis merci à Marie-Claire et à Jacob, voilà, qui se sont investis pour qu'on prépare ce culte ensemble. Alors la liberté, thème général de nos cultes. Philosophiquement, on ne sait pas très bien définir ce que c'est la liberté. Et en tout cas, elle est liée à la conscience, qu'on sait encore moins bien définir. D'ailleurs, j'ai écouté, je ne sais plus si c'est hier soir ou ce matin, il y avait une interview de Jacques Besson, qui est un psychanalyste qui se dit chrétien ouvert. Mais il disait, la conscience, c'est le point de butée de la science. Parce que vraiment, on n'a pas, voilà. Si la conscience est juste le produit de mécanismes de neurones, alors il n'y a pas de sens. Mais il y a autre chose, de plus grand. Alors certains pensent aussi sur ces idées mécanistes du fonctionnement du cerveau que finalement la liberté est une illusion. Et pourtant, on l'éprouve tous. Ça me rappelle juste un petit épisode, la première fois que mon fils, qui est en train d'apprendre à faire du vélo, tout d'un coup il part en avant. Et il doit avoir une fantastique impression de liberté que la première fois qu'il pédale tout seul et qu'il va 100 mètres plus loin. Alors pour ma part, je crois que j'ai été marqué par l'époque de ma jeunesse lointaine, de mes études, Mai 68, ça vous dit quelque chose? J'ai fait ma licence de maths justement en 1968 à Lausanne. Alors on n'avait pas des manifs comme à Paris, on n'a pas jeté de pavés à cette époque, mais il y avait quand même une revendication, une recherche de liberté par rapport à toutes sortes, aux autorités, à toutes sortes de hiérarchies, de traditions. Donc, vraisemblablement, si au fond de moi-même, je suis un petit peu libertarien sur les bords, un peu allergique aux hiérarchies, il y a sans doute une certaine influence, voilà, de cette époque-là. Et puis, si jamais ça baise un peu trop mes réflexions sur biblique, vous me corrigerez. Alors, les textes choisis que nous avons lus aujourd'hui sont sur deux registres très différents. Le premier, qui est tiré du livre du prophète Ésaïe, la troisième partie d'Ésaïe, c'est un message d'espoir adressé au peuple juif de l'époque. C'est la mission messianique de la bonne nouvelle aux pauvres, de la libération des captifs, de l'année de la faveur du Seigneur. On est en plein dans le registre de la justice sociale. Le deuxième est tiré de l'évangile de Jean, et là on est sur un registre tout intérieur de vérité, de liberté, de relation filiale à Dieu. Alors ce matin, je vous propose quelques réflexions pour essayer de tenir ensemble les deux. Donc ce texte d'Ésaïe, c'est précisément celui que reprend Jésus au début de son ministère, selon l'évangile de Luc, comme nous l'a rappelé Nicolas Genecan dimanche dernier. Une bonne nouvelle pour les pauvres, prendre soin des désespérés, proclamer aux captifs la liberté. Le prophète, il évoque cette libération pour un peuple qui avait perdu son pays, perdu ses repères. Une partie des habitants avait été déportée. Et dans tout l'Ancien Testament, la foi juive de laquelle nous sommes les héritiers est marquée par une histoire d'esclavage et de libération. Un groupe de population, des descendants du patriarche Abraham, il y a pas loin de 4 millénaires, s'installent en Égypte. Tout va bien au début, et bientôt ils se retrouvent totalement exploités, à faire et à manipuler des briques, un vrai esclavage. D'ailleurs, il faut peut-être penser parfois, quand on va admirer les pyramides d'Égypte, ou bien les temples d'Angkor au Cambodge, tout l'esclavage qui a permis leur réalisation. Alors le récit biblique raconte, c'est un peu le fondement de la foi juive, la libération de cet esclavage en Égypte. Puis quelques siècles plus tard, voilà le peuple qui se retrouve sous la domination des empires assyriens et babyloniens. Donc avec ce texte d'Ésaïe, on est dans le droit fil de cette préoccupation de la justice sociale qui traverse tout l'Ancien Testament, qui est présente un peu partout, depuis les textes législatifs jusqu'aux prophètes, en passant par les psaumes. D'ailleurs, les textes législatifs sont en grande partie explicitement prévus pour protéger les plus fragiles. Et il y a entre autres cette année de la faveur auquel fait allusion le prophète Ésaïe, et qui est repris chez Luc, il s'agissait de tous les 7 ans ou tous les 50 ans de faire une remise à zéro des compteurs avec ceux qui avaient perdu leurs biens par des emprunts ou voilà, quoi que ce soit, ça leur revenait. C'est comme si on savait déjà très bien à l'époque, bien avant les analyses modernes des sociologues, à quel point le fonctionnement de la société fait que les riches s'enrichissent au détriment des plus démunis. Donc toute la législation juive est prévue pour pallier cette tendance-là. Alors, dans les histoires racontées, d'ailleurs dans l'Ancien Testament, partout, on s'insurge, et dans les prophètes particulièrement, contre les puissants qui exploitent les faibles ou qui les réduisent en esclavage. Alors, cet appel à la justice et à la liberté, cette annonce de libération qui est là dans Ésaïe et dans bien d'autres textes, ont été source d'inspiration pour différents mouvements dans l'histoire chrétienne. Je pense à la théologie de la libération, qui est un mouvement né en Amérique latine parmi des théologiens catholiques dans les années 1970, comme un Dom Helder Camara, qui militait pour une église qui soit engagée pour la justice et qui n'ait pas seulement des belles paroles pour promettre une meilleure vie dans un futur. On peut aussi mentionner la manière dont les Noirs, les esclaves et les descendants des esclaves ont été inspirés par tous ces récits bibliques et l'ont exprimé par la musique des négros spirituels, en exprimant ainsi cet espoir d'une libération. On peut rappeler que la traite des esclaves occidentales elle a déporté entre 11 et 12 millions de personnes en 4 siècles, jusqu'à son abolition en 1865. Et puis il a fallu le combat de Martin Luther King, inspiré aussi par ces mêmes thèmes bibliques, assassiné le 4 avril 1968, pour qu'enfin, aux États-Unis, l'égalité soit inscrite dans la loi. Et puis, cet appel, cette aspiration à la liberté ont aussi inspiré, avec d'autres influences, bien sûr, les déclarations des droits humains, des droits de l'homme, qui ont abouti à l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations Unies en 1948. J'ai regardé dedans, il y a 19 fois le mot « liberté » dans cette déclaration. Alors tout ça, ça nous renvoie aussi à nos contradictions de notre histoire occidentale avec l'exploitation coloniale, l'apartheid, l'esclavage disparu, mais qui se manifeste aujourd'hui sous d'autres formes. Et ça rappelle notre responsabilité d'être engagés sur le front de la justice et des libertés. Non seulement notre liberté, hein, souvent on veut défendre notre liberté de religion, ce qui est très bien, mais aussi celle de toutes les victimes des exploitations d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que parfois je me dis, mais est-ce qu'on aime vraiment la liberté ? Je pense aux Israélites. Pas longtemps après être délivrés d'Égypte, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils veulent un roi. Les prophètes les avertissent, mais ce roi, il va vous exploiter. Ah non, non, nous on veut un roi pour être comme les autres. Je pense aussi, dans l'actualité, dans le siècle dernier et ce siècle, à cette propension qui ressurgit à différents moments de se donner un espèce de sauveur-dictateur. Ce qui est arrivé avec Hitler, qui malheureusement a été élu. Et puis aujourd'hui, il y a des tendances de ce genre qui sont parfois un peu inquiétantes. Alors voilà pour ce volet de la justice sociale. Maintenant, j'arrive à l'évangile de Jean, qui est sur un tout autre registre, tout intérieur, avec un vocabulaire qui est un peu mystérieux, qui a un sens multiple au-delà du sens commun, et puis aussi une espèce de manière de penser en spirale qui nous déroute, qui est déroutante pour nous. Alors on a lu un extrait du chapitre 8 qui commence en fait par l'histoire que vous connaissez sans doute de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Et puis là on est dans une confrontation entre Jésus et les Juifs. Alors il faut mettre des guillemets aux Juifs parce qu'en fait il ne s'agit pas du peuple juif, il s'agit des autorités religieuses de l'époque, spécialement les pharisiens, c'est-à-dire les bien-pensants, les gardiens de la bonne doctrine. Alors si on reprend un petit peu ce texte, si vous restez fidèle à ma parole, ou littéralement si vous demeurez dans ma parole, si vous habitez ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On retrouve dans le prologue de Jean, donc le premier chapitre, cette idée de la parole qui est venue habiter parmi nous. Donc c'est Dieu qui se fait tout proche de nous, qui vient vraiment chez nous. Et puis là, c'est nous qui sommes invités à habiter cette parole. Cette parole qui est venue nous rejoindre et qui maintenant, l'habiter, c'est vraiment la faire nôtre, quelque chose qui s'incarne dans toute notre manière d'être. Vous connaîtrez alors la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais c'est quoi la vérité ? Alors, je crois que ce n'est pas un dogme, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude d'appeler la vérité biblique, des fois peut-être, chez les évangéliques, ce n'est pas la vérité objective des mathématiques, avec des démonstrations, etc. Je pense que c'est plutôt la vérité d'une relation avec Dieu. On peut penser à la femme samaritaine, le récit qui est au chapitre 4, qui demande à Jésus s'il faut adorer à Jérusalem ou plutôt sur des montagnes de Samarie, suivant les versions de la foi. Jésus lui dit qu'il s'agit d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc c'est en dehors des dogmes, c'est une espèce de vérité de ma relation avec Dieu. Alors ces juifs, ils comprennent rien. Qu'est-ce que tu racontes ? La vérité nous rendra libres, mais on n'a jamais été esclaves de personne. C'est un peu comme si nous, on se disait, ah mais nous on est des bons protestants, ah ben, nous on est des bons catholiques, ah puis nous on est des bons évangéliques. C'est pas ça qui sauve. Puis on dirait que ces juifs, ils ont oublié quelque chose. On n'a jamais été esclave de personne. Et puis alors en Égypte, et puis maintenant qu'ils sont sous le joug des Romains, et puis qu'ils attendent un Messie pour les libérer des Romains, ils ne sont pas un petit peu esclaves? En vérité, leur dit Jésus, et on retrouve ce mot de vérité, toute personne qui pêche est esclave du péché. Alors ici aussi, le mot péché, il a un sens et une portée qui est autre, je pense, qu'une faute morale. On pourrait dire que c'est avant tout notre état de relation faussée avec Dieu et avec autrui, par conséquent. Plus loin dans le texte, d'ailleurs, on voit que Jean, à propos du péché, il évoque l'histoire de Caïn, le premier meurtre dans l'histoire biblique, tout au début de l'histoire, meurtrier de son frère, en conséquence de cette relation faussée avec Dieu. Parce que le serpent insinue que Dieu serait là pour limiter notre liberté et notre connaissance, pour mieux nous dominer. C'est l'idée du serpent, et ça amène toute la suite. Mais ce n'est pas ce Dieu-là que Jésus nous présente. Alors il ajoute ceci, un esclave ne fait pas partie pour toujours de la maison, mais un fils en fait partie pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. Je pense qu'on peut dire si le fils Jésus nous libère, c'est pour que nous soyons nous aussi dans une relation de fils avec Dieu, et non pas d'esclave. Donc Jésus, il nous invite à participer à une relation filiale avec Dieu, c'est celle aussi que nous exprimons, ou que nous exprimerons tout à l'heure en priant la prière que Jésus nous a apprise, notre Père, parce que nous sommes ses fils. Et c'est cette relation filiale qui est la source de la vraie liberté. Alors, quelques pensées que ça m'inspire pour aujourd'hui, quelques questions à méditer. Je pense que cette liberté, c'est un apprentissage. Je suis souvent peut-être un peu esclave de ce que vont penser les autres, de ce dont je voudrais me montrer capable. Et puis alors, plutôt que d'être dans la vérité, je commence à cacher mes faiblesses, ou je minimise mes erreurs, ou je souligne les erreurs des autres. Jésus m'invite à être vrai. En chemin avec lui, en apprenant progressivement cette relation filiale avec un Dieu qui m'accueille inconditionnellement. Et l'Église peut être, et je crois qu'elle est appelée à être, une communauté où on apprend ensemble cette liberté. Y compris la liberté d'avoir des compréhensions différentes des choses, de pouvoir les partager et les confronter sereinement. La liberté d'évoluer dans notre manière de comprendre les choses avec les étapes de la vie. La liberté de reconnaître nos failles sans crainte d'être jugé. Parce que notre compréhension, elle est toujours limitée, sans souvenir. Alors le fait d'être vrai avec les autres, il ne s'agit pas d'une transparence totale, parce que je pense qu'il faut reconnaître que chacun a besoin de protéger ce jardin intime. Mais je suis appelé à ne plus me faire passer pour quelqu'un d'autre que je suis réellement. Et ça, c'est possible parce que je me sais accueilli pleinement par Dieu. Et je pense qu'il y a quelque chose de très profond dans cette relation filiale qui nous est, à laquelle Jésus nous invite, celle qui nous offre et à laquelle il nous invite. Il me semble d'ailleurs que c'est quelque chose qui est très différent de la notion de soumission que l'islam promeut, mais peut-être aussi d'une manière de voir Dieu qu'on a souvent chez nous, dans nos églises, ou qu'on a appris à l'école du dimanche, voilà, donc il y a quelque chose à apprendre et à progresser là-dedans. Et puis cette liberté, ce n'est pas une liberté qui serait purement individuelle. Au contraire, elle implique des relations communautaires saines, restaurées, elle implique la pratique du pardon, elle implique la mise en œuvre de l'amour qui est au cœur de l'enseignement de Jésus. Donc ça ne me limite pas ma liberté de penser, mais parfois ça va limiter ma liberté de dire certaines choses, de faire certaines choses qui peuvent être OK pour moi, mais qui peuvent poser un problème à d'autres, simplement par respect, par amour pour autrui, dans l'Église ou en dehors de l'Église aussi. Donc pour conclure avec ça, je vois dans ces textes vraiment un appel à vivre une liberté qui nous est donnée, mais aussi à la prendre ensemble, à la vivre. Et en même temps, un appel à être pleinement engagé, que ce soit personnellement ou en communauté, pour la justice et la liberté dans la société et dans le monde, où elles sont constamment menacées par l'avidité des plus riches, dont nous sommes aussi, d'une certaine manière, et par la volonté de puissance d'autres. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre.
Thank you.
Nous vous invitons, en réponse à la parole de Dieu, à chanter ce chant « Te ressembler, Jésus », le 44-12, page 668. Voilà, nous vous invitons maintenant à prononcer ensemble une confession de foi, celle que vous trouverez dans le recueil numéro 64-71, mais c'est la page 1099, au bas de la page 1099. Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts. Il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois la résurrection dans l'imminence d'un monde nouveau où Jésus-Christ notre Seigneur sera tout en tous. Amen.
Seigneur, nous voulons être proches de toi, sans que cette proximité nous éloigne de nos prochains. Nous te demandons d'élargir l'espace de nos vies. Nous souhaitons pouvoir cueillir, accueillir, recueillir les êtres et les événements qui surviennent sur nos chemins. Chanter avec ceux qui rient, pleurer avec ceux qui souffrent, songer avec ceux qui rêvent, agir avec ceux qui transforment, marcher avec ceux qui se lèvent, comparer avec ceux qui font halte, camper avec ceux qui font halte, regarder avec ceux qui montrent, échanger avec ceux qui parlent. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner un cœur et un esprit nouveau, un cœur et un esprit large.
Nous allons entrer maintenant dans un temps de Sainte-Cène, voilà où nous nous souvenons de ce qu'a coûté l'engagement de Jésus pour venir nous sauver. Et nous chantons pour commencer le Sanctus qui est au numéro 6242, page 683, si je ne m'abuse. Oui, 983, voilà. Quand l'heure fut venue, et c'est l'heure où Jésus allait tout bientôt être arrêté, quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec ses disciples, avec les apôtres, et il leur dit « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à ce que son sens soit pleinement réalisé dans le royaume de Dieu. » Il saisit alors une coupe, remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-en le contenu entre vous. Car je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Puis il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, la garantie par mon sang qui est versé pour vous. » Nous nous souvenons, Seigneur, de ton sacrifice, de ta vie donnée pour que nous ayons la vie, que nous soyons libérés. Nous prions ensemble cette prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
« Vous êtes tous invités à former un cercle pour la communion. Et on vous demandera de tremper le pain dans le jus de raisin ou dans le vin pour...
Ceci est le corps de Jésus donné pour nous. Et ceci est le sang de Jésus versé pour nos fautes. Seigneur, comme ce pain et ce vin pénètrent dans nos corps, que ta parole pénètre en nous pour nous apprendre à être tes fils, à être les fils du Père, dans la vérité, dans la liberté. Accompagne chacun de nous sur ce chemin. Amen. Nous allons maintenant, vous pouvez rejoindre vos places. Voilà. Et nous allons recueillir notre offrande. Je ne sais pas si tu dis quelque chose à ce sujet. Voilà. Nous allons recueillir notre offrande qui est partagée entre nos deux communautés, on peut rappeler ça, et chanter ensemble le numéro 4415, page 672, « C'est vers toi que je me tourne ». Merci Seigneur pour cette offrande, qu'elle puisse être utilisée avec sagesse et que chacun reçoive de ta part de quoi subvenir à ses besoins aussi. Dans le nom du Christ. Amen. Voilà.
Et voici quelques annonces. Dimanche prochain, notre culte en commun aura lieu au village. Il y aura également des grillades mercredi dès 19h, si le temps est au beau. Pour notre paroisse protestante, il y aura un culte à Châtelaine. Je profite de cette occasion pour remercier toute l'équipe de préparation, Anne-Lise, Sylvain, Jacob, qui a tout préparé pour l'apéritif qui suivra. C'est une chose qui s'est avérée un peu délicate du fait des travaux qui ont lieu ici. La cuisine n'est pas vraiment opérationnelle, il n'y a ni eau ni électricité, ce qui fait que Jacob a dû faire preuve de beaucoup de débrouillardise. Je vous remercie de bien vouloir rester avec nous pour l'apéritif qui suivra. D'autre part, nous avons l'habitude de rester assis durant le dernier morceau d'orgue qu'Anne-Lise va nous jouer.
Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous la lumière de sa face et vous manifeste sa grâce. Que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous accorde la paix. Et bon dimanche, bonne semaine dans la présence du Seigneur.